Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous. Alors après être allé dans les nuages, là on va revenir les pieds sur terre. Et là je vais vous parler donc des solutions de stockage de carbone sur les surfaces terrestres. Et je vais en particulier me focaliser sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors, un petit point de contexte. Alors, je vais être rapide parce que François-Marie en a déjà parlé. Donc, si on regarde les échanges actuels entre l'ensemble de la biosphère terrestre et l'atmosphère, vous avez ce que vous avez à gauche ici, où on voit que, en fait, on a un puits de carbone. Alors deux caractéristiques, vous voyez qu'il y a une variabilité interannuelle qui est extrêmement importante et qui est liée à la variabilité climatique. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce puits biosphérique est extrêmement sensible aux conditions climatiques. Donc ça, en particulier vis-à-vis du changement climatique, ça va être quelque chose de très important. C'est beaucoup plus variable, par exemple, que le puits océanique. Alors ça, c'est ce qui est absorbé par les écosystèmes. Après, évidemment, à cause de l'usage des terres et en particulier de la déforestation, essentiellement, il y a évidemment une partie de carbone qui va être aussi perdue. Et donc, si on regarde le bilan net, donc en prenant en compte ce qui est absorbé par les écosystèmes et ce qu'on perd à cause de l'usage des terres, vous avez cette courbe à droite donc qui est moins haute, mais on constate que depuis les années 90, on est passé donc dans un mode positif, c'est-à-dire que même si on prend en compte cette déforestation, on a un système qui stocke du carbone. Alors si on regarde l'ensemble du cycle, le bilan de carbone, donc on a les émissions des énergies fossiles et cette déforestation, et on retrouve que la moitié de ces émissions dans l'atmosphère, le reste étant stocké de façon à peu près équivalente entre les surfaces terrestres et les océans. Alors, en résumé, ce qu'on voit, c'est que les surfaces continentales absorbent à peu près déjà le quart des émissions globales. Donc ça, c'est évidemment une chance pour nous qu'on puisse avoir au final près de la moitié de nos émissions qui sont absorbées. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a un effet de réchauffement dans les hautes latitudes, parce que pour les écosystèmes qui sont limités par la température, il y a un allongement de la durée de croissance de la végétation et donc plus de biomasse. Il y a un effet de fertilisation du CO2. Plus le CO2 augmente et plus le rendement de la photosynthèse augmente aussi. Alors il y a un effet aussi de fertilisation par les nutriments, par le fait que la combustion des énergies fossiles produit un certain nombre de composés azotés qui viennent se déposer dans le sol et qui ont un effet fertilisant. Et enfin, aussi, dans les moyennes latitudes, en particulier en Europe, on a une reforestation qui est liée à l'abandon d'un certain nombre de terres agricoles. Donc finalement, c'est déjà une captation qui est faite alors de façon non volontaire, mais qui est lié à ce changement d'utilisation des terres. Donc l'idée, c'est comment on peut accroître ce puits pour compenser plus d'émissions. Finalement, on en absorbe déjà une partie, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Là aussi, ça, François-Marie l'a rappelé, donc je vais être rapide, que dans le cadre de l'accord de Paris, l'objectif, c'est d'avoir des émissions, une neutralité carbone à l'horizon 2050 pour rester sur la cible d'une augmentation de température en dessous de 2 degrés, et avec la contrainte qu'ensuite, évidemment, on doit avoir des émissions qui deviennent négatives. Alors même si le terme d'émissions négatives peut paraître curieux. Et donc, évidemment, plus on va avoir un scénario intensif en émissions de gaz à effet de serre, et plus derrière, il faudra compenser par des émissions négatives. Alors maintenant, si on regarde les principales catégories de ces CDR sur les surfaces terrestres, on peut les classer en fait en deux catégories. Donc ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qu'on pourrait appeler finalement aussi bio-ingénierie, qui consiste à utiliser la capacité la photosynthèse, des végétaux, de capter du CO2 par photosynthèse et ensuite de produire de la biomasse. Et puis de l'autre côté, on a des solutions qui sont plus vraiment de la géo-ingénierie. Si on regarde ces solutions fondées sur la nature, il y a essentiellement trois catégories. Il y a la restauration des écosystèmes dégradés, il y a le changement d'usage des terres, et ça c'est principalement l'idée de faire de la reforestation ou de l'afforestation, mais il y a aussi l'idée d'avoir des changements de gestion des terres, donc de modifier les pratiques culturales pour améliorer le stockage de carbone. Sachant que là, on va jouer en fait sur deux compartiments différents. C'est d'une part, on peut jouer sur la biomasse et on va jouer sur le carbone dans le sol. Donc certaines solutions se jouent sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux en même temps. Alors, en ce qui concerne la géo-ingénierie, bon, je vais être assez rapide dessus, mais je vais quand même en parler un peu. Donc, un des premiers aspects, c'est ce qu'on appelle les BECCS. C'est l'idée d'utiliser donc, des biocarburants en substitution des énergies fossiles. Et ensuite, de faire donc, du stockage de carbone à partir de la combustion, récupérer le CO2 émis lors de l'utilisation de ces biocarburants pour les stocker de manière... et donc, à la différence, évidemment, de l'utilisation des... de la même technologie, mais à partir de carbone fossile. Évidemment, les carbones fossiles, si on est neutre en carbone, là, on a effectivement des émissions négatives, puisque on va ensuite pouvoir refaire de la biomasse et utiliser la même solution. Donc, l'autre technologie, c'est donc ce qu'on appelle les biochars, c'est-à-dire la fabrication de charbon. Donc, par pyrolyse, on va transformer de la biomasse en charbon, qui sont donc des composés très récalcitrants. C'est une forme de carbone qui est très récalcitrante et qu'on va pouvoir épandre ensuite sur les terres. Et qui vont donc, permettre d'augmenter la quantité de carbone dans le sol. Et dernière catégorie aussi, comme c'est le cas d'ailleurs pour les océans, c'est l'idée d'utiliser des roches qu'on va pulvériser et qu'on va épandre aussi sur les terres, donc des roches basaltiques en particulier. Et là, il y a deux choses. La première chose, c'est que par un phénomène chimique de carbonatation, ces roches vont absorber directement du CO2. Mais en plus, il se trouve qu'en particulier, les basaltes sont très riches en phosphate. Et donc, ça va aussi avoir un effet fertilisant. Et donc, ça va permettre aussi à la biomasse d'augmenter la quantité de biomasse, donc indirectement, là aussi jouer sur la productivité. Alors, si on regarde maintenant ce que c'est que les solutions fondées sur la nature, et si on regarde la définition telle qu'elle est donnée par l'IUCN, c'est les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de la société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, comme on l'a déjà vu, il y a essentiellement trois choses qui sont prise en compte, c'est la préservation des écosystèmes, l'amélioration et la gestion des écosystèmes et la restauration. Alors, oui, un point que j'ai oublié de mentionner dans le transparent précédent, c'est que comme on le verra, en fait, dans ces solutions fondées sur la nature et qui sont en général mises dans la catégorie des CDR, il y a toute une partie qui est liée à la préservation en fait des stocks existants. Et ça, évidemment, c'est pas directement des émissions négatives, mais pour autant, c'est évidemment quelque chose de fondamental parce que avant d'essayer de stocker du carbone supplémentaire, c'est vrai que la première chose, c'est d'éviter de perdre celui qu'on a et les stocks de carbone qui existent. Mais comme on le verra, il y a un peu une confusion dans ces notions. Évidemment, la mitigation carbone ne représente qu'un des aspects des solutions fondées sur la nature, parce que c'est aussi solutions fondées sur la nature, c'est aussi pour la préservation de la biodiversité, pour tout un tas d'autres, en général, de tous les services écosystémiques que l'on peut avoir. Alors, une chose qui est intéressante à regarder dans cette définition-là, c'est ce que j'ai mis là autant en vert, c'est il y a le tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc là, il est quand même bien indiqué, en particulier pour la mitigation carbone dans cette définition telle qu'elle est donnée par l'IUCN, c'est que ces solutions, la mitigation carbone ne doit pas impacter du coup les autres, ne doit pas impacter l'humain directement, mais aussi la biodiversité. Donc c'est quand même un point qui est très important pour la suite. Alors, si on commence à regarder maintenant il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites à l'échelle globale, en particulier Griscom en 2007, puis qu'il a repris ensuite en 2020, on a essayé d'évaluer un potentiel global en séparant donc en ces trois catégories, restauration, donc gestion et ce fameux protection de ce qui existe. Hein. Donc vous voyez qu'il arrive à peu près à 11 gigatonnes de CO2, ce qui est à peu près le même ordre de grandeur que le puits actuel naturel hein, de la végétation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais là-dedans, et c'est pour ça que j'ai séparé ici, vous voyez qu'il y a 4 en fait, gigatonnes quasiment qui sont finalement de la préservation et qu'on ne peut pas vraiment considérer comme des émissions négatives. Donc réellement, si on regarde des émissions négatives, c'est plutôt autour de 7 gigatonnes. Donc après, il y a un certain nombre d'études, hein, plusieurs études qui ont été faites, donc des méta-analyses qui ont regardé ces différentes choses. Des analyses qui sont assez cohérentes sur l'ordre de grandeur, à la fois du puits et aussi sur le fait que le plus gros facteur qui est mis en avant comme solution, c'est la forêt, et donc c'est reforestation et afforestation. Alors, si on regarde aussi donc d'autres études, bon, déjà dans le cadre du Global Carbon Project, maintenant il y a une évaluation qui a été faite récemment qui essaye d'évaluer ce qui est déjà actuellement mis en place en fait en termes de reforestation et on arrive à une estimation d'à peu près 2 gigatonnes de CO2. C'est pas forcément des choses volontaires. Hein. Là-dedans, ça prend en compte effectivement la reforestation de façon générale. Et puis ils ont regardé aussi d'autres choses. Alors, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. Hein. Moi, là, j'en parlerai pas, mais c'est aussi le fait qu'un autre moyen, c'est dans l'exploitation du bois. Si on utilise du bois, par exemple, dans du bois d'œuvre ou des choses comme ça, évidemment, ça aussi, c'est un moyen de faire des émissions négatives. Et donc, là, ils arrivent à une estimation actuelle d'à peu près 0,2 gigatonnes. Et ils ont aussi essayé d'estimer ce qu'il y avait par les BECCS. Et vous voyez qu'actuellement, évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore mis en place. Donc, c'est quelque chose de totalement négligeable. Et ensuite, il y a une méta-analyse qui a été faite par Doulet en 2024, qui a essayé de regarder un peu toutes les études et qui a en particulier séparé les études en deux choses, c'est-à-dire des études qui ne prenaient en compte aucune contrainte et des études qui prenaient en compte les contraintes liées au coût. Hein. Et là, ce qu'on voit tout de suite, ben, c'est que les études, quand on prend pas en compte les coûts, on peut arriver évidemment à des valeurs extrêmement importantes. Mais dès qu'on prend en compte des considérations un peu plus réalistes, évidemment, on a alors à la fois des simulations. Enfin, donc vous voyez, hein, pour les différents types de solutions, on arrive à des choses qui sont relativement similaires, hein, les mêmes ordres de grandeur. Et là, si vous avez à gauche ce qui est par an. Et le cumul à deux horizons temporels, à l'horizon 2050 et à l'horizon 2100. Et là aussi, finalement, des choses qui sont quand même assez cohérentes avec, vous voyez, quelque chose qui s'approcherait de 300 gigatonnes de CO2 à l'horizon de 2100, donc dans ces approches qui prennent en compte les coûts. Alors maintenant, je vais me focaliser un petit peu plus sur le cas français. Et pour ça, je vais me baser beaucoup sur un rapport qui a été fait par l'INRA, donc une étude collective qui s'appelle le rapport 4 pour 1000, et je vais y revenir. Et j'ai aussi, me suis basé, alors il y a eu d'autres rapports qui ont été faits, et je vous les indique ici, parce que comme ça, vous pouvez aller les regarder. C'est des rapports qui sont que vous pouvez télécharger, qui sont gratuits. Hein. Donc le ministère de l'écologie a mis en place un programme qui s'appelle l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques et qui a fait un rapport en particulier sur le service de stockage de carbone. Et puis il y a également l'Alliance Ancre qui a fait un position paper sur les puits de carbone, donc là qui intègre alors toutes les, pas uniquement hein, l'aspect solution fondée sur la nature, hein, là ça aborde tous les aspects des CDR, mais voilà, donc si vous voulez aller y faire un tour, il y a des choses intéressantes à voir. Si on regarde maintenant les stocks et les puits de carbone donc dans les agrosystèmes en France, ce qui ressort très clairement, c'est que à la fois en termes de stocks et de puits surtout, c'est vraiment la forêt qui représente la plus grande quantité de stocks de carbone et de puits. Une chose qui est assez intéressante, c'est dans l'étude, là, ils ont séparé la forêt métropole et la forêt d'outre-mer. Alors oui, j'ai oublié de dire, donc par contre, ce qu'on voit, c'est que les cultures qui pourtant représentent la surface la plus importante, représentent un faible stock de carbone et quasiment pas de puits. Hein. Du coup, oui, pour revenir sur les forêts, vous voyez que ce qui est assez intéressant, c'est de voir que toutes les forêts d'outre-mer représentent pas un puits de carbone assez négligeable. Par contre, elles représentent un stock qui est énorme, qui est en fait presque deux fois plus que tout le stock de la forêt de métropole. Et donc là, on voit quand même toute l'importance, évidemment, en tant que la France a sur la préservation de ces stocks de forêts tropicales, puisque on a finalement quand même des surfaces assez importantes. Alors, ce qu'on voit, c'est que donc la forêt, ça représente le plus grand stock mais d'un autre côté, en fait, on a assez peu d'espace pour la reforestation qui sont disponibles. Et donc, c'est plus en fait sur les stocks dans les sols qu'on va pouvoir jouer. D'où c'est pour ça que je vais en venir à cette initiative 4 pour 1000. Alors ça, c'est quelque chose qui a été lancé dans le cadre de la COP21. Hein. Et c'était pour justement stimuler à la fois la recherche, mais aussi évidemment le développement de solutions pour améliorer le stockage de carbone dans tous les agro-systèmes, dans l'agriculture. L'idée, en fait, donc de ce 4 pour 1000, c'est de dire si on est capable d'augmenter de 4 pour 1000 la quantité de carbone dans tous les sols agricoles du monde, et on serait capable de compenser l'ensemble des émissions. Donc évidemment, c'est un chiffre théorique, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même un potentiel qui est loin d'être négligeable là-dessus. Alors, si on regarde maintenant ce que c'est que le sol, hein, comment ça fonctionne, évidemment, c'est un stock de carbone qui est pas stable, hein, puisque si on arrête les entrées, eh bien, progressivement, le carbone qui est dans le sol va disparaître parce qu'il va être décomposé, il va être lessivé, etc. Et l'équilibre de ce carbone, il dépend d'un certain nombre d'entrées, enfin des entrées qui sont liées à l'entrée de litière et donc aux sorties sous forme de décomposition ou de minéralisation, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que si on augmente les entrées et que les entrées deviennent plus importantes que les sorties, on va augmenter ce stock de carbone dans le système. Maintenant, si on regarde la cinétique du carbone dans le sol, si on rajoute de la matière organique fraîche dans le sol, ce qui se passe, c'est que on a à peu près la moitié de cette matière organique qui se décompose très rapidement, donc dans l'ordre en 2-3 ans. Donc c'est la cellulose, c'est les sucres, etc. Après, il y a des composés comme la lignine qui se décompose beaucoup plus lentement. Donc là, on a des échelles de temps de quelques décennies. Et puis, il y a une fraction qui, finalement, va se stabiliser dans le sol et se décomposer sur des échelles de temps beaucoup plus lentes, sachant que cette décomposition dépend de deux facteurs importants. La température, plus il fait chaud, plus la décomposition est rapide. Et également de l'humidité des sols. Là aussi, plus les sols sont humides, plus la décomposition augmente, alors jusqu'à un certain facteur, parce que si on commence à avoir des sols qui sont saturés en eau, là au contraire, alors on change, en fait, au lieu de produire du CO2, on va produire du méthane, la décomposition est fortement ralentie. Alors si on regarde maintenant une carte des stocks actuels de carbone en France, ce qu'on voit tout de suite ressortir, c'est le fait que les terres agricoles sont les sols les plus pauvres en carbone, parce que évidemment, comme on retire la biomasse du sol, on n'a plus ces entrées de biomasse, donc on perd le carbone, et en plus les pratiques culturelles comme le labour, par exemple, ont tendance à stimuler la décomposition. Donc on va retrouver les grandes plaines agricoles faibles en carbone, et puis ensuite des stocks de carbone plus importants sur les forêts et sur les prairies, et plus on monte en altitude, plus ces stocks de carbone sont importants parce que la température étant plus fraîche, on va avoir une décomposition qui est beaucoup plus lente. Donc maintenant, si on regarde l'évolution liée à un changement d'usage, et donc ce qu'on voit par rapport à la carte que je vous ai montrée précédemment, en fait, c'est que dès que l'on va convertir des cultures donc qui sont pauvres en carbone, que ce soit en prairie ou en forêt. Alors ça, c'est une méta-analyse, hein, qui est vraiment basée sur des mesures qui ont été faites à deux horizons de temps, sur 20 ans et sur 100 ans, après la transition. Et donc, ce qu'on voit, c'est que culture ou forêt, on va avoir une augmentation forte du stock de carbone qui va aller en diminuant avec le temps, hein, parce qu'on va vers un nouvel état d'équilibre. Donc, évidemment, cet effet de stockage, il n'est pas infini, hein, il va aller progressivement en diminuant. Évidemment, l'inverse, quand on convertit une prairie en culture ou une forêt en culture, eh bien là, phénomène inverse, évidemment, on va avoir un déstockage de carbone. Et sachant que quand on passe de prairie à forêt, on a des choses qui sont assez équivalentes, donc ça dépend du contexte, mais finalement, on a des stocks de carbone qui sont assez similaires entre des prairies, alors quand je parle de, c'est vraiment des prairies permanentes, par rapport à des forêts, on a des choses qui sont dans les mêmes ordres de grandeur. Alors maintenant, si on regarde l'évolution liée à des changements de pratique, hein, donc ça, dans le rapport 4 pour 1000, a été évalué l'impact d'un certain nombre de pratiques culturales qui pouvaient améliorer le stockage de carbone. Alors je ne vais pas pouvoir les détailler toutes, hein, mais vous voyez, donc ça concerne les cultures, les prairies, le vignoble et la forêt. Et donc dans les cultures, les choses qui sont identifiées comme assez intéressantes, il y a l'extension des cultures intermédiaires, c'est-à-dire qu'en fait là, après la récolte de la culture, au lieu de laisser le sol nu, on va planter une nouvelle culture. En général, ça va être une légumineuse et qu'on va, à la fin, juste avant le nouveau cycle cultural, on va en fait l'enfouir directement dans le sol, ce qui va apporter à la fois du carbone, mais aussi de l'azote si on a utilisé des légumineuses. Autre chose qui commence à se développer un peu, c'est aussi l'agroforesterie. Donc là, c'est de faire des mélanges, d'avoir des mélanges où on a des cultures et des arbres. Alors, ce qui peut être à la fois des cultures, mais c'est aussi dans les prairies, hein, pour l'élevage, c'est aussi une solution. Et il y a aussi l'idée de refaire. Alors, pendant longtemps, on a fait du remembrement pour augmenter la taille des parcelles. Et là, l'idée, c'est de retourner vers un système plus bocager et de reconstituer des haies. Et vous voyez que ça apparaît en particulier les cultures intermédiaires comme des solutions qui stockent pas mal de carbone, ainsi que l'agroforesterie, par exemple. Et solution, par exemple, vous savez, sur les vignobles, il y a l'idée de, au lieu de, enfin, de laisser l'herbe pousser entre les rangs de culture. Et par contre, vous voyez que pour la forêt, sachant qu'on parle bien ici de pratiques actuelles sans modification, c'est-à-dire qu'en particulier, on ne change pas le prélèvement de bois. Hein. Évidemment, si on diminue par exemple le prélèvement de bois, on va stocker du carbone. Mais là, on ne change pas la quantité de bois prélevé. Et là, on voit qu'il n'y a rien qui peut être vraiment mis en évidence pour améliorer le stockage du carbone. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mesuré comme stock de carbone. Alors, si on fait la mesure sur le champ, maintenant, évidemment, il faut avoir une vision plus globale en cycle de vie parce que, évidemment, la mise en place de ces pratiques, d'abord, ça va demander, par exemple, l'utilisation de machinerie agricole et donc d'émissions de combustion d'énergie fossile, mais aussi ça va avoir des impacts sur d'autres choses comme les autres gaz à effet de serre, comme comme les émissions de N2O, et aussi autre point très important, là on avait parlé que du stockage dans le sol, mais il faut prendre en compte la biomasse aussi, le fait que ces solutions vont éventuellement modifier la biomasse. Alors si on prend notre culture intermédiaire, vous voyez que là il va falloir les planter, etc. On va utiliser des tracteurs, donc ça on va émettre du CO2, mais par contre on va avoir une meilleure utilisation de l'azote dans le sol, parce qu'elles vont repomper de l'azote et qu'éventuellement ça va diminuer les intrants qu'on va mettre. Et ça, donc on va diminuer les émissions de N2O, qui sont un gaz à effet de serre très important aussi. Donc au final, si on regarde par rapport à ce qu'on peut mesurer finalement ce qu'on a au final, on voit qu'on dégrade un petit peu les choses à cause de ces émissions de carbone supplémentaires, mais que finalement on n'en est quand même pas très loin. Par contre, alors cas intéressant, vous voyez l'agroforesterie et surtout les haies. Les haies, tout à l'heure, on voyait qu'en fait, en termes de stockage de carbone, ça apporte vraiment pas grand-chose. Par contre, en termes de parce qu'on va produire pas mal de biomasse supplémentaire, ça va avoir un effet en termes de stock de carbone qui va être très important. Et c'est aussi le cas pour l'agroforesterie. Et maintenant, il faut rentrer évidemment dans les considérations économiques aussi, puisque ça, c'est évidemment une autre contrainte qui sont quand même très importantes. Et là, en fait, si on regarde l'estimation du coût, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ces solutions qui apparaissent comme très intéressantes d'un point de vue stockage de carbone, c'est aussi des solutions coûteuses, hein, parce que là, évidemment, il va falloir acheter des semences, il va falloir les planter, les arbres, etc. Et donc évidemment, ça a un coût, et ça pose la question de pour qu'elle soit réellement implémentée, il faut qu'il y ait une aide ou que ce soit. C'est un élément qui est important de prendre en compte. Alors. Maintenant, évidemment, ce qui est important, c'est de regarder les limites et les risques de toutes ces approches. Alors, une des premières difficultés, c'est l'évaluation du puits additionnel, parce que c'est bien gentil de mettre ça en place, mais après, il faut être capable de regarder est-ce qu'on a vraiment stocké du carbone en plus. Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Idéalement, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est faire des mesures sur site, donc regarder le carbone dans la biomasse et dans les sols à l'instant T, et puis revenir 20 ans ou 30 ans après pour voir ce qui s'est passé. Mais ça, évidemment, c'est très coûteux, surtout si on veut développer ça à des échelles beaucoup plus grandes. Donc après, les autres solutions, c'est d'utiliser des méthodes statistiques, d'utiliser des modèles qui vont nous permettre d'avoir des choses à plus grande échelle, mais qui ont évidemment une incertitude, qui ne vont pas être aussi précises que d'effectuer des mesures sur le sol. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Deuxième point, c'est le problème de la pérennité du stockage. Parce que, comme je l'ai dit, alors contrairement à l'enfouissement, enfin théoriquement à l'enfouissement profond du carbone, on peut se poser ici la question de savoir s'il y restera longtemps. Mais là, on sait qu'effectivement, c'est un système instable, puisque en particulier dans les sols, ça ne fonctionne que quand on maintient nos entrées par rapport à nos sorties. Et en particulier, le problème, c'est que si on met en place des pratiques stockantes, par exemple dans les cultures, si on revient, on change les modes de culture au bout de 5 ou 6 ans, eh bien, on va tout reperdre à nouveau. Donc on est obligé d'avoir... Ça pose vraiment des questions vis-à-vis de la pérennité du stockage. L'autre point important, c'est le conflit avec d'autres services écosystémiques, en particulier la biodiversité. C'est le cas, par exemple, pour la forêt. Si on veut pousser le bouchon maximum, on peut se dire, par exemple, il y a des arbres qui ont une croissance extrêmement rapide, et donc qui vont pouvoir stocker du carbone très rapidement. Donc on peut être tenté de couper des forêts qui sont assez diversifiées mais peu productives pour les remplacer. Alors là, c'est vrai qu'on va stocker du carbone, mais évidemment, en termes de biodiversité, ça va être catastrophique. Alors l'autre point qui est peut-être encore plus important, c'est le problème du conflit d'usage des terres vis-à-vis, en particulier, de la sécurité alimentaire. Là, ça, il faut savoir que c'est quand même une question très importante parce que, finalement, on demande plein de choses différentes. D'un côté, on voudrait stocker plus de carbone et si on veut, évidemment, dans ce cas-là, ça, par exemple, faire de la reforestation, c'est ce qui va être le plus efficace. Mais si on prend ça sur des terres agricoles, ça va poser des problèmes de sécurité alimentaire. Sachant que, par ailleurs, en termes de culture, si on veut une agriculture... d'abord, il y a l'augmentation de la population, et puis si on veut une agriculture plus durable, ça veut dire que probablement on va avoir des baisses de rendement, ce qui va demander des surfaces agricoles plus importantes. D'un autre côté, vis-à-vis de la biodiversité, on a aussi besoin de ce qu'on appelle des zones d'ensauvagement, donc c'est-à-dire d'avoir des zones refuges qu'on va laisser, donc qu'on va plus gérer, pour permettre à la biodiversité de se maintenir, et sachant au final que aussi on est très loin d'être à la zéro artificialisation nette, on continue encore à avoir de l'artificialisation des surfaces. Donc vous voyez que c'est une équation qui est quand même extrêmement compliquée, et ça c'est quand même un très très gros problème. Et en particulier vis-à-vis de la sécurité alimentaire, parce que j'ai parlé de la reforestation, mais là, si on prend en compte les BECCS, et en particulier les biocarburants de première génération qui sont basés sur des céréales. Alors là, on vient directement, évidemment, en conflit avec la sécurité alimentaire. Et évidemment, dernier problème aussi très important que François-Marie a mentionné un peu, c'est le problème d'interaction avec le changement climatique, qui malheureusement a toutes les chances de ne pas aller dans le bon sens, parce que d'un côté, au niveau des sols, comme je l'ai expliqué, on a tendance à augmenter la décomposition quand on augmente la température, et donc vu que les températures vont augmenter, on risque de perdre du carbone des sols. Et puis il y a tout le problème donc aussi des écosystèmes eux-mêmes, en particulier par la forêt, pour la forêt. Et comme l'a aussi mentionné François-Marie, hein, ce qu'on constate de façon assez critique, c'est sur les dernières décennies, une augmentation en France, par exemple, mais de façon assez générale en Europe, un dépérissement très important des forêts lié à des sécheresses récurrentes. Ce qu'on constate aussi, c'est une augmentation de la vulnérabilité des forêts. On voit qu'elles deviennent de plus en plus vulnérables. Donc évidemment, c'est sûr que là, si on plante de nouvelles forêts, mais qu'elles ne peuvent pas pousser ou qu'elles vont mourir, ben évidemment, on va tout reperdre là aussi. Et sachant, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à la question de ce qu'on va planter, on peut être tenté là aussi d'utiliser donc des essences à croissance rapide qui vont stocker beaucoup de carbone, mais malheureusement, en général, c'est aussi des essences qui sont assez peu résilientes. Donc ça pose un problème. D'où un point qui est très très important, c'est qu'il faut avoir une approche systémique, et c'est rarement le cas, c'est-à-dire vraiment il faut aborder toutes ces considérations, plus les considérations économiques, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment pris en compte. Donc en conclusion, ce qu'on a pu voir, hein, c'est que on a un potentiel théorique à peu près de 10 gigatonnes de CO2, bon, ce qui me semble assez optimiste, hein, ce qui représenterait à peu près 20% des émissions actuelles, mais bon, je pense que c'est assez optimiste, c'est largement incertain, et puis il ne faut pas l'oublier, un effet de saturation, puisque là aussi c'est toujours qu'un état transitoire, on revient vers un nouvel état d'équilibre, et donc on ne peut pas stocker indéfiniment du carbone, quoi. Alors, la forestation et la reforestation, c'est ce qui offre le potentiel le plus important, mais comme je l'ai dit, ça pose un gros problème de conflit d'usage des terres, et c'est par exemple chez nous quand même assez limité comme potentiel. Donc la modification des pratiques culturales, ça offre un potentiel qui est assez intéressant, avec des choses comme les cultures intermédiaires ou l'agroforesterie, d'autant plus que ça a aussi des co-bénéfices. Hein. Par exemple, les cultures intermédiaires, comme j'ai dit, ça va pouvoir limiter par exemple l'usage d'intrants, et puis ça va améliorer la qualité des sols. On va avoir des sols qui vont mieux retenir l'eau, etc. Et donc ça peut permettre d'augmenter les rendements. Dans le cas par exemple de l'agroforesterie, alors là ça dépend des zones. C'est sûr que dans le nord on va avoir des choses qui vont être l'effet d'ombrage peut avoir un effet négatif. Par contre, il y a des études qui ont montré que dans le sud de l'Europe ou dans les zones limitées par l'eau, on peut avoir un effet largement positif et augmenter au contraire les rendements grâce à l'agroforesterie. Il y a, comme je l'ai dit, le problème du coût économique, parce que évidemment, ça pourra être mis en place que si on peut économiquement financer ça. Hein. Et ça pose aussi un problème d'équité dans la mesure où finalement c'est les sols les plus dégradés qui offrent le plus de potentiel. On va se dire le plus de potentiel qui, si on met en place des crédits carbone, par exemple, vont pouvoir récupérer plus de crédits carbone. Donc ça peut poser un problème là aussi. L'autre point important, c'est vraiment l'impact avec les autres services écosystémiques. Hein. C'est le gros risque de ne considérer que la mitigation carbone, qui risque donc de dégrader tout un tas d'autres services écosystémiques et la sécurité alimentaire en particulier. Comme j'ai dit, je pense que ça, vraiment le point très important, c'est la nécessité d'avoir des approches systémiques, de bien prendre en compte tous les éléments et aussi de mettre en place des suivis à long terme, donc des observatoires pour regarder ce que l'on a. Voilà.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.